crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons une peinture d'Edward Munch intitulée « La danse de la vie, une huile sur toile » d'un mètre 26 par presque 2 mètres, 1 mètre 90. Elle a été réalisée en 1899. Il y a eu d'ailleurs, je crois, plusieurs versions, mais celle que nous regardons est bien celle de 1899. Elle est conservée à la Galerie Nationale d'Oslo et elle est considérée comme une des pièces centrales d'un grand cycle dont Angela Lampe va nous parler tout à l'heure, qui s'appelle « La frise de la vie », un grand cycle thématique de Munch. Munch se grand artiste, au fond, qui a été considéré vers 1912, lors des premières expositions d'art moderne en Allemagne, comme un maître équivalent à Picasso, et qui a disparu pendant quelques instants de l'attention des historiens d'art français pour réapparaître il y a peu.
J'ai peint tableau après tableau, d'après les impressions saisies par mon œil durant des instants d'émotion. J'ai peint les lignes et les couleurs laissées sur ma rétine. Je n'ai alors peint que ce dont je me souvenais, sans rien ajouter, sans les détails que je ne voyais plus. En résulte la simplicité des tableaux, leur vide apparent. J'ai peint des impressions du temps de l'enfance, les couleurs passées de ce temps. En peignant les couleurs et les lignes et les formes que j'avais saisies durant un instant d'émotion, j'ai voulu, comme un phonographe, faire vibrer à nouveau cet instant d'émotion. C'est ainsi que naquirent les images de la frise de la vie.
Cette peinture horizontale que nous observons aujourd'hui, la danse de la vie, élément central peut-être de la frise de la vie, elle fait donc 2 mètres de large, je le disais tout à l'heure, et elle représente 4 couples qui valsent sur une herbe trop verte au bord d'une mer bleu sombre, au-dessus de laquelle s'immobilise la pleine lune qui, comme un point sur un i, surmonte la barre verticale de son reflet orange. Sur les côtés, comme des saints dans un tableau religieux, 2 femmes observent les danseurs. L'une à gauche, en robe blanche, les mains ouvertes, hésite à se saisir d'une longue fleur. Et une autre à droite, tout en noir, et les mains jointes, elles sont vertes d'ailleurs, le visage anguleux et comme dépulpé par le tourment. Au milieu, un couple. C'est l'artiste lui-même. Il contemple sa cavalière qui est vêtue d'une intense robe rouge et il lui tient la main. Ils sont proches et distants à la fois, graves, comme s'ils étaient étranger à la scène. Derrière ces 3 verticales que composent les personnages, un autre couple, harcelé par les flèches du désir sans doute, s'embrasse goulûment. Plus loin, au fond, à la limite de l'estran, 3 ou 4 personnages animent un plan. Ce n'est pas, pourrais-je penser, je le pense d'ailleurs, le meilleur tableau d'Edward Munch, cet immense artiste, je le disais, considéré au début du siècle comme l'équivalent de Picasso, mais sa démarche fut moins la systématisation de styles successifs que l'invention d'une équivalence entre des formes plastiques et les mouvements intimes de l'âme dont il se voulait, on l'a entendu le dire, l'écrire il y a quelques instants, le phonographe en quelque sorte. Ce n'est pas son meilleur tableau, mais il a été réalisé au cœur d'une crise dont l'intensité dévastatrice le conduisit à se réfugier dans un sanatorium, dans une région où il ne connaissait personne, où il espérait échapper aux élans de sa turbulente compagne de l'époque, Tula Larsens, et aux élans contradictoires que celle-ci lui inspirait et qui l'épuisait. Cette confusion d'esprit se ressent dans la vitesse d'exécution de l'œuvre. Elle est brossée avec une peinture très diluée, la térébenthine, et les contours sont vacillants, comme exécutés dans une certaine confusion. Il a répété comme autant de cernes ou d'auras un petit peu hallucinées autour des corps. Cette rapidité est aussi une cartographie des émotions, nourrie par une symbolique qui revient constamment dans son œuvre. Le blanc, le rouge, le noir qui symbolisent l'innocence, la sensualité et le deuil. Et la mer évidemment, qui est la symbole d'un océan sans rivage qui, comme l'artiste, tire la vie de la matière qui gît dans les profondeurs de l'être tout en renouvelant son esprit par l'intervention de l'en haut, si j'ose dire. Cher Franck Surti, vous avez bien voulu venir nous voir aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes un artiste que j'aime beaucoup. Et votre travail, en général, s'inspire des moments croisés dans la rue ou des objets croisés dans la rue qui atteignent votre émotion ou inventent une forêt de signes à partir de laquelle vous travaillez. Et pourtant, quand je dis cette démarche, vous n'avez rien d'un artiste expressionniste et je suis étonné quand je vois dans votre exposition que s'y trouve un hommage à Munch qui, lui, est un expressionniste tourmenté. Vous ne recherchez en général pas l'expression de votre âme, des troubles de votre psyché et vous êtes sur d'autres sujets. Et je voudrais que vous me répondiez à cela dans quelques instants. Mais auparavant, je tiens à présenter la conservatrice en chef des collections modernes du Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou. Vous êtes là-bas depuis 2005, Angela Lampe. Vous avez réalisé de nombreuses expositions très célèbres. Je pense en particulier à celle que vous avez consacrée à Munch et qui s'intitulait « L'œil moderne ». Et c'était un point de vue très original sur Munch, hein, puisque vous avez essayé de révéler avec votre comparse Clément Chéroux que Munch n'était pas le grand artiste symbolique de la fin du 19e siècle qui engageait l'art moderne, mais que c'était un artiste qui appartenait de plein pied à l'art moderne, puisque dans sa carrière qui s'est achevée, on oublie parfois, en 1944, n'est-ce pas, Munch, oui, ça a été très long, eh bien vous avez révélé qu'il était partie prenante de tous les enjeux de l'art moderne à ce moment-là. Vous avez réalisé récemment une exposition qui a été très commentée, elle aussi, qui était au Centre Pompidou-Metz. C'était une exposition qui vous avait été demandée par l'excellent directeur Laurent Lebon, qui s'appelait « Vue d'en haut », où vous essayez de montrer comment la vision aérienne depuis les montgolfières, Nadar par exemple, jusqu'au jet, si j'ose dire, avait bouleversé le point de vue des artistes. Alors, Franck Surti, première question. Vous n'êtes pas un artiste expressionniste. Et tout d'un coup, vous réalisez cet objet étrange. Alors, je peux le décrire si vous voulez. C'est trois bouts de bois qui sont associés pour suggérer un cadre avec une grande diagonale qui évoque évidemment la diagonale célèbre du Cri, le tableau de Munch. Le pont, n'est-ce pas? Et qui est inspiré d'Hokusai. On va en parler, l'importance de la perspective chez Hokusai. Et les grands nuages sont exprimés par un fil électrique rouge, cette sorte de turbulence comme ça du monde météorologique qui correspond à la turbulence intérieure de l'artiste. Et la bouche ouverte, ce cri qui nous frappe tant, c'est un vase dont transparent, dont l'ouverture exprime une bouche. Pourquoi Munch chez un artiste qui n'a rien d'expressionniste?
En fait, ce qui m'intéresse chez Munch, c'est tout simplement parce que je considère que c'est un des premiers à avoir joué sur l'image mentale, en fait. C'est un peintre presque d'idées, quoi.
Est-ce que vous partagez ce sentiment d'image mentale pour les œuvres de Munch en général, Angela Lampe?
Je pense qu'il y a quelque chose d'universel, c'est un peu mental, de venir vraiment vers des thèmes universels, qu'on voit d'ailleurs aussi dans ces tableaux, la danse de la vie. Mm-hmm. Mais en même temps, je pense que c'est une peintre. C'est vraiment une peintre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui réfléchit en termes d'espace, en termes de couleurs. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui est aussi quelqu'un qui est vraiment très ancré dans le réel. C'est quelqu'un qui part toujours à partir d'une impression visuelle. Donc, je pense que si après, on peut en effet avoir l'impression que c'est une image mentale, mais ce n'est pas le point de départ. Hein.
Quand Munch décrit sa façon de travailler, il est effectivement un peintre qui part de situations réelles, mais c'est souvent des situations émotionnelles réelles, pas forcément des situations physiques réelles. Alors pour le vérifier, peut-être revenons à notre œuvre et écoutons-le décrire la danse de la vie.
Au milieu, la grande toile que j'ai peinte cet été. Je dansais avec mon premier amour. Il s'agissait d'un souvenir d'elle. C'est alors qu'entre la femme souriante aux boucles blondes qui veut arracher la fleur de l'amour, mais qui ne s'autorise pas à être elle-même cueillie. À l'opposé, une femme habillée de noir regarde, pleine de chagrin, le couple en train de danser. Elle est l'exclue, tout comme j'ai été exclue par sa danse. La fresque de vie a été pensée comme une série cohérente de tableaux qui doivent donner ensemble un aperçu de la vie. Toute la fresque est traversée par la ligne diffuse du rivage, au-delà de laquelle déferle la mer, toujours en mouvement. Les diverses formes de la vie se déploient sous le couvert des grands arbres, avec leurs soucis et leurs joies. J'ai ressenti cette fresque comme un poème de vie, d'amour et de mort. Les tableaux avec le rivage et les arbres, ce sont toujours les mêmes couleurs qui réapparaissent ici, donne les lignes verticales et horizontales qui se répètent sur toute l'étoile. Le rivage et les personnages donnent le ton de la vie qui foisonne à son gré. Des couleurs puissantes répandent à travers toute l'étoile l'écho du même accord. Edward Munch.
Galère un peu, peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte d'apparition de cette œuvre. Comment est-elle venue ? J'essayais de dire qu'elle était prête au moment d'une crise amoureuse ou d'une crise compliquée. Peut-être vous pouvez nous raconter déjà l'histoire qui est autour.
Bah, l'histoire qui est autour, c'est donc la vie d'amoureux d'Edvard Munch. Donc il dit dans cet extrait de son journal que la femme qui est dans la robe rouge au milieu, donc c'est sa première grande amour, c'est Millie Taulov, hein, donc c'est une femme mariée à l'époque. Donc Munch en a beaucoup parlé dans ses écrits, qu'il a intitulé Mademoiselle Heiberg et cette femme. Donc c'était un grand amour, mais donc elle était mariée, donc c'était aussi une grande déception. Et donc dans ce tableau, elle est vraiment représentée dans la robe rouge, ça représente le moment vraiment de la passion. Et arrive donc cette femme blonde, comme il l'indique dans son journal. Et cette femme blonde, c'est l'amie que Munch a à ce moment-là, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. Et Tuula Larsson, il y a des témoignages, il y a des écrits. Elle est vraiment éperdument amoureuse de Edvard Munch. Et Munch, il sait pas trop, il est d'un côté, bien sûr, il a le sentiment, mais en même temps, il essaie de se réserver, donc il a peur de vraiment de perdre l'énergie, il veut vraiment poursuivre son œuvre, sa peinture, et donc il y a toujours des va-et-vient entre ces deux amants. Et d'ailleurs, cette histoire va mal se terminer, c'est-à-dire en 1902, donc trois ans ou deux ans après la peinture, il y aura vraiment un conflit, une dispute dramatique, parce que pendant cette dispute, il y a une coup de revolver, il y a un coup de feu qui va se déclencher.
On n'a jamais su si c'était lui ou elle.
Oui, enfin, on ne sait pas finalement, mais on connaît le résultat, c'est-à-dire Munch va perdre une phalange de sa main gauche et ça l'a vraiment traumatisé. Donc il y a vraiment ensuite beaucoup de tableaux où cette Tuula Larsson devient Charlotte Corday, donc à côté de Marat, donc elle est vraiment la meurtrière. Mais à ce moment-là, là, on est encore quelques années avant cette fin, c'est encore donc une histoire d'amour. Et juste quelques mois avant cette peinture, Tuula et Munch, ils ont entamé un voyage en Italie. Donc ils sont allés à Rome, à Florence. Et je me demande, justement parce que dans ce tableau, ce qui est frappant, c'est ce dédoublement de la femme. Donc c'est la même femme donc, qui est dans différents états d'esprit. Et ce dédoublement de la femme me fait penser à une œuvre très connue dans l'histoire de l'art, c'est la Visitation de Pontormo, qui date de 28. Donc c'est une visitation, donc on voit Élisabeth et Marie qui s'embrassent, et pratiquement comme un pas de danse. Et derrière, il y a le dédoublement. Donc on voit la même femme qui regarde de façon frontale les visiteurs. Donc je me demande si Munch n'a pas pu voir ces tableaux magnifiques de Pontormo, parce qu'on a vraiment là le schéma de composition, c'est assez similaire.
Alors cette question de la danse de la vie est une question qui apparaît souvent dans l'histoire de l'art. Vous parlez de Pontormo et de la Visitation, c'est pas une danse de la vie, mais c'est vrai que la position des deux personnages est très proche. Et également, j'ajouterais que les deux personnages qui apparaissent au centre du tableau de Munch sont à distance et que c'est une période où Munch demande à son amante d'essayer d'avoir avec lui un rapport de sœur et plus un rapport d'amante. Il est comme terrorisé d'être dévitalisé dans sa création par les élans de cette femme. Dans votre travail, c'est plutôt la façon dont vous exprimez le travail de Munch, en tout cas, dans le cri, par exemple, que vous avez interprété, c'est plutôt la crise, disiez-vous, qui est importante, c'est-à-dire un moment de difficulté sociale que vous ressentez.
Oui, et puis de reporter cette tension sur les matériaux avec lesquels j'ai travaillé, avec des matériaux que j'ai trouvés et qui donnent du sens et de la signification quoi, à la forme telle qu'on peut l'apercevoir. Je pense pas qu'on puisse reconnaître le cri d'emblée quand on regarde cette œuvre.
Je crois on reconnaît un Frank Skurti, c'est normal, mais on reconnaît pas d'emblée.
Non, parce que c'est juste, il est là, très asséché. Quand je parlais tout à l'heure d'image mentale comme ça, c'était justement, moi je trouvais un peu ça, mais voilà.
Vous trouviez un peu ça, c'est-à-dire
Je trouve que chez Munch, c'est très apparent pour moi. Enfin, je suis sensible à ce qui se passe, les signes qu'il émet comme ça. par la couleur, par le traitement de surface, etc. J'y suis très sensible et pour moi, ça dénote autre chose parfois que ce que l'on voit direct, de façon littérale. Il a des œuvres très littérales. Le cri en est une, par exemple.
Mais dans votre travail, ouais. Juste pour faire une relation, mais au fond, vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire sur Munch que simplement ces connotations que j'essaie de faire. Il y a eu avant, me semble-t-il, cette interprétation du tableau de Munch qui donne l'idée de crise psychique ou physique, mais au fond, ça se rejoint à cause justement de la rareté, de la maigreur des matériaux, de leur pauvreté, de leur simplicité. Avant, vous aviez fait, me semble-t-il, des pots en terre, à l'intérieur desquels il y avait, vous aviez doré l'intérieur duquel, comme s'il y avait un trésor à l'intérieur duquel, donc doré comme à la feuille, et vous aviez, me semble-t-il, serré, racontez-nous.
Oui, j'avais serré avec des ceintures, des pots d'argile.
Au moment où vous les faisiez, avant qu'ils soient cuits.
Avant la cuisson, oui, et puis ensuite j'avais fait dorer l'intérieur à la feuille, quoi.
Et donc ça faisait des gueules ouvertes.
Ça faisait des gueules ouvertes, oui, c'est très en rapport aussi. Et oui, enfin vous avez raison de le signaler, parce que c'est des œuvres de la même,
période.
De la même période. Moi, une des questions qu'il y a de Munch aussi, qui est très près, enfin... Angela me contredira peut-être, qui m'intéresse depuis tout le temps aussi, suite à... donc, c'est cette idée aussi que chez Munch, il y a un vrai questionnement sur la valeur de l'image aussi. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quand je dors l'intérieur des pots en terre ceinturée, c'est aussi une question sur la valeur des choses. Quand je fais cette version du cri avec des matériaux de récupération, c'est aussi un questionnement sur la valeur. Et la chute des valeurs aussi.
Donc là, quand vous parlez de l'intérieur du pot, parce que ça va nous permettre de ces pots en terre que vous avez dorés, c'est quand même, on est dans une démarche très symbolique. C'est l'intérieur de l'individu comme trésor.
Oui, oui.
C'est bien ça. Et est-ce que ce n'est pas ça, Angela Lampeu, dont Munch nous parle sans cesse, de la vie intérieure comme trésor?
De la vie intérieure comme trésor. Je pense que la vie... plus comme ça, l'expressivité. Il essaie de capter l'expressivité de la vie. Mais je ne pense pas que ce soit qu'il le cache. Il veut l'extérioriser, ce qui est à l'intérieur. Mais, et surtout, à partir de ses propres expériences, il cherche vraiment des thèmes universels. Mais ce n'est pas quelque chose, je pense, qu'il veut... Justement, il ne veut pas cacher, mais il veut partager. Il veut nous faire capter l'émotion. Il veut vraiment... Surtout, moi, je pense que c'est vraiment un trait très important pour Munch. Il essaie de nous interpeller. C'est-à-dire, il essaie de nous faire entrer dans un tableau, de nous faire mettre face à un personnage, face à une situation. Et donc, cette force suggestive, cette interpellation, je le trouve vraiment très, très, très importante.
C'est en ce sens que je parlais de la puissance de l'image et de sa puissance mentale, quoi.
Oui, c'est surtout vrai pour l'écrit, parce que l'écrit est devenu vraiment pratiquement une sorte de pictogramme. Donc on le voit dans la publicité, il y a cette film sur les affiches, The Scream, l'écrit.
Oui,
vraiment l'écrit devenu aujourd'hui une sorte de même, une marque de fabrique. Donc c'est tellement fort et c'est tellement intemporel. C'est là aussi, c'est important. Souvent, les motifs deviennent en effet des signes, donc des images mentales, si on veut, et qui sont surtout intemporels. Donc, c'est pour cette raison que Munch nous parle encore autant aujourd'hui.
Mais Franck Surti,
cette valeur de l'image, pour moi, est très importante. Et donc, elle a déterminé ces pots en terre dont vous parliez, et le cri, et bien d'autres choses. Une autre chose qui est déterminante et qui, pour moi, dans mon travail, et qui... l'exposition Mamco est assez déterminante aussi par cet aspect à Genève là, en ce moment, c'est que il réunissait ses travaux en séquence comme ça, il faisait des suites des fois qui mettaient 30 ans à se constituer, il en changeait l'ordre, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis, je dirais, le début. Le premier pas avait été à Strasbourg, où j'ai réuni un certain nombre d'œuvres sur un fil conducteur, et au Mamco, c'est ce que j'essaye aussi de faire, c'est-à-dire de réunir un certain nombre de pièces qui parlent, qui disent quelque chose, pas forcément quelque chose de très clair. Munch non plus ne disait pas forcément quelque chose de très clair quand il réunissait un certain nombre de toiles comme ça les unes après les autres, mais qui...
Alors vous soulevez là un point très important, quoi. Parce que la question de la série chez Munch, c'est-à-dire de la reprise continuelle d'un même sujet qui va traiter parfois sur 30 ans, comme vous l'avez dit.
Et sur des styles différents.
Et avec une grande évolution de style, tout à fait. Je pense en particulier à ce tableau, vous allez me dire comment il s'appelle, Angela Lampeu, qui représente la mort de sa sœur. malade dans un fauteuil.
L'enfant malade.
L'enfant malade, qui est un tableau extraordinaire qu'il a repris tout au long de sa vie. Mmh. Et il s'explique très profondément sur, sur cette question de la série. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot.
Bah, la sérialité, en effet, c'est quelque chose qui caractérise Munch. Il y en a plusieurs raisons pour cette reprise incessante. Donc, il y a d'abord l'idée de révisiter un motif parce qu'il était tellement ému, ce qui était le cas pour l'enfant malade, qu'il a ressenti le besoin de la retravailler. Mais il y a aussi parfois des raisons tout à fait pragmatiques, hein, parce que il a vendu une tableau, il en avait besoin pour son cycle, son grand projet, la frise de la vie. On en a déjà parlé. Hein. Donc la frise de la vie, hein, donc c'est grand cycle autour des thèmes existentiels, l'amour, l'angoisse, la mort. Hein. Et il y avait donc, c'est une sorte d'exposition, c'est une série. Quand il avait vendu une toile, hein, il voulait présenter ses cycles, il avait refait. Donc, et parfois, il y a des commandes aussi.
Mais il est important qu'on fasse une différence entre un artiste qui ferait des séries comme Cézanne fait des séries pour approfondir un motif, un artiste qui fait des séries pour voir les variations dans le temps comme le fait Monet, par exemple, et les séries de Munch qui ont un sens très très différent, même s'il y a des obligations économiques derrière, mais ça a quand même un sens très très différent.
Bah justement, on dit série parce que pour Vitir, hein, mais finalement c'est pas vraiment une série,
c'est
plutôt
des suites, en fait.
On peut dire aussi une narration, c'est une narration visuelle qui compose toujours de façon différente, donc c'est une sorte de work in progress, donc c'est pas du tout quelque chose achevé, et c'est pas, en effet, c'est une temporalité, mais une temporalité qui s'est construite pendant plus que 30 ans. Donc, il existe entre 10 et 12 expositions de la frise de la vie, et chaque exposition est différente. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement rare dans l'histoire de l'art. Hein. Et il y a parfois 6 tableaux, parfois il y a 22 tableaux. Donc, il y a toujours aussi des tableaux différents qui figurent dans cette frise de la vie.
La musique et les couleurs accaparaient mes pensées. Elles accompagnaient les nuées légères et la tendre musique dans un monde de joie et de lumière. Je devais faire quelque chose, commencer quelque chose, qui empoignerait les autres comme cela m'empoignait. Je représenterais deux êtres à l'instant le plus sacré de leur existence, qui a les couleurs de la rose, mais qui est plus fort que la mort. Dans cet instant, on n'est plus soi-même, mais seulement l'un des milliers de maillons qui engendrent les générations. Je voyais un bras fort nu et velu, une nuque puissante et brune, et sur la large poitrine nue et puissante, une jeune femme repose sa tête. Elle ferme les yeux à demi et écoute les mots qu'il lui chuchote dans sa chevelure flottante. Et sa peau translucide se confond avec celle de l'homme. Et le public sentira ce qu'il y a de sacré dedans. Et les gens ôteront leurs chapeaux comme à l'église. La musique, c'est ça. On applaudit. Oh non, ils diront que c'est immoral. Oui, mais ce qui est grand et puissant et sacré, et qui durant les millions d'années a été l'instant le plus important de l'humanité, ne peut être immoral. Ils te puniront, ricaneront. Oui, mais. On accordait les violons. J'entendis quelques notes. J'ai su ce qui allait suivre. C'était la valse de Caria. C'était comme une femme qui séduit. Une musique tendre et attirante qui vous entraîne. Comme si elle vous faisait un clin d'œil. Souriait d'un sourire caressant et chatouillant nos oreilles de sa voix la plus séduisante et la plus suave. Tantôt taquine, tantôt suppliante et insinuante. Nous sommes prisonniers. Elle rit et triomphe et se moque. Elle nous foule aux pieds et nous fait grâce. Et je la prenais pour celle que j'ai aimée et que j'ai haïe. Elle qui toujours chantait cet air en souriant. C'est la voix d'une femme qui séduit d'abord doucement, tendre et caressante, comme si elle dorlotait un enfant. Elle caresse avec sa voix. Elle enivre avec sa voix. Elle enivre avec ses regards, tantôt taquine, tantôt suppliante et insinuante. Et je suis prisonnier. Je ne suis plus moi-même. Ses yeux sont mon âme et elle sourit et elle triomphe et se moque et me tourmente. Je la vois. Elle qui chantait toujours cette valse, le jour où elle l'avait chantée près du piano au crépuscule. Il y avait du monde dans la pièce, mais son regard me cherchait. Et quand elle fredonnait cet air sur ma poitrine, sa bouche frémissante chatouillait mon cou nu.
Excellent Francesco Tristano, note pour piano que nous entendions à l'instant. En regardant un peu cette frise pour la vie, ça l'a occupé toute la vie justement. De quoi s'agissait-il exactement? Comment est-ce que vous pourriez dire, expliquer, raconter ce projet?
C'est un projet éminemment moderne et donc on peut dire que c'est une série ouverte, ou moi je dirais plus, au lieu d'utiliser le mot série, c'est une narration visuelle qui touche les thèmes existentiels, donc l'amour, l'angoisse, la mort. Et que Munk compose toujours de façon différente. Donc il commence en 1893, c'est la première version à Berlin, et il s'arrête en 1918. Et entre là, il y a 10 à 12 expositions différentes qui s'appellent donc la frise de la vie. Donc il ne s'agit pas d'une frise dans le sens convenu de cette mot, mais il s'agit vraiment d'une certaine accrochage, d'un nombre de tableaux, d'ailleurs tableaux qui changent à chaque présentation.
Et c'est pour moi. Il y a énormément de photographies de lui où il est entouré tout au long de sa vie d'une partie de cette frise de la vie.
Oui,
c'est-à-dire de ce cycle.
De ce cycle, parce que bon, il expose jusqu'à 1918, mais il repense même à créer un musée. Donc il y avait vraiment des plans de trouver une place permanente pour cette frise de la vie.
Franck Surtier, est-ce que c'est important pour un artiste d'inventer un cycle qu'il poursuit et de le construire pour qu'il soit poursuivi tout au long de sa vie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous concernerait, par exemple?
Oui, c'est fondamental. Enfin, moi, c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. C'est notamment pour cette frise de la vie, cette idée de rassembler un certain nombre. C'est quelque chose qu'on trouve aussi chez Duchamp, hein, cette volonté de faire, pas une œuvre totale, mais quasi, quoi.
Il y a une influence wagnérienne, nietzschéenne et wagnérienne chez Munk, d'ailleurs.
Oui, c'est pas un hasard. Et donc, c'est vrai que ça peut étonner des gens, que j'ai un intérêt pour ce genre d'œuvre, mais je m'y retrouve tout à fait pour toutes les raisons que j'essaie d'énumérer tout à l'heure. Mais cette idée de... Moi, je travaille, l'exposition du même coup comporte deux salles très particulières. Aujourd'hui, je pourrais en faire 3-4. C'est vraiment...
Qui se répondent les unes les autres,
qui se répondent,
qui complètent un propos, en fait.
Complètement, et ce que j'avais essayé de faire à Strasbourg à l'époque, c'était un peu le début de tout ça et la fin d'autre chose. Mais c'était, je pourrais le faire depuis le début de mon travail, cette histoire de rassembler des choses, des œuvres, les unes à côté des autres et les associer. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la façon dont Munk, la frise de la vie, c'est difficile d'en tirer une vérité ou un sens particulier.
C'est comment est-ce que...
Mais par contre... Non,
simplement parce que ça donne aussi une clé de la lecture. À un moment donné, Munk appelle cette frise de la vie de l'âme moderne.
Donc, c'est de l'âme.
De l'âme moderne, oui. Das moderne Seelleben, de la vie de l'âme moderne. Donc voilà, c'est tout un...
C'est baudelairien comme point de vue.
Oui, la modernité, bien sûr, c'est peintre moderne, tout à fait.
Et donc, pour répondre à votre question, oui, c'est fondamental qu'un artiste... Je pense que, à mon sens, les grands artistes sont des gens qui veulent rassembler, qui, dès qu'ils perdent quelque chose ou quelque chose leur échappe, en sont profondément perturbés. Et c'est vrai que quand Munk vendait une pièce, ou sans comparaison, lorsqu'une pièce est vendue ou part quelque part, elle me manque, il y a un réel trou, il y a un vide dans ma production.
Et lui aussi s'en plaignait, et
justement,
il ne voulait pas vivre sans les œuvres
que vous
alliez dire, Angela.
Et le cri, par exemple, ne m'appartient plus, et ma version du cri, pardon, et ne m'appartient plus, et là, pour le même coup, je l'ai reprise, j'étais vraiment...
Vous en aviez besoin.
C'était indispensable au récit que j'entends former aujourd'hui. Le cri fait partie d'une dizaine de pièces, on va dire. Et voilà, et donc je comprends très bien Munk qui reproduisait ses œuvres, qui en faisait des copies, etc., puisqu'il avait cette ambition folle d'une œuvre totale et d'un récit.
Alors, je voudrais vous poser une question, Angela, un peu qui correspond à ça, mais qui va peut-être nous décaler un petit peu par rapport au sujet. La question de la reprise des sujets chez Munk.
J'ai eu l'impression qu'il ne s'agissait pas seulement de remplacer un tableau manquant, qu'il ne s'agissait pas seulement de faire une évolution stylistique dans une œuvre, mais plutôt d'essayer de se remettre dans la situation psychique, dans la transe quasiment, qu'il a eue lorsqu'il l'a peinte. Essayer de répéter comme un phonogramme, il le disait dans le premier entretien, la situation mentale dans laquelle son univers s'organise lorsqu'il repeint le tableau, replongeant à nouveau dans le même climat. Qu'en pensez-vous ?
C'est tout à fait juste pour quelques toiles, notamment pour l'enfant malade. Mais je dirais, quand on regarde vraiment toute la production et vraiment cette reprise incessante de Munch, je ne suis pas convaincue que c'est vraiment cette approche-là est valable pour toutes ces différentes reprises. Et notamment parce qu'on voit, par exemple, avec le motif du baiser ou le motif du vampire.
Oui, c'est deux motifs d'ailleurs très unis, parce que le vampire, le baiser, c'est une sorte d'union complète, telle que le peint Munch, n'est-ce pas, des deux corps qui font une unité. Et le vampire, c'est une fusion absolument génétique, quasiment, entre les deux.
Oui, c'est la femme qui essaie vraiment, c'est le vampire, c'est le titre, suicide de sang dans le nuque. Donc, mais il y a vraiment une fusion entre la chevelure de la femme qui englobe vraiment
l'angoisse en plus.
Peut-être. Donc, oui, enfin, ça après, on peut en discuter. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces deux motifs vraiment récurrents dans l'œuvre de Munch, il les a transposés dans les décors différents. Parce que ça, on essayait un peu de montrer dans l'exposition au Centre Pompidou, c'est-à-dire qu'il y a un jeu de décors avec ces reprises. Donc, d'un côté, c'était la première version à l'intérieur, dans un espace clos, sombre, donc très symboliste. Et 20 ans plus tard, c'est à l'extérieur, c'est à Askastrand, comme d'ailleurs le tableau La danse de la vie.
Qu'est-ce que c'est Askastrand ?
Askastrand, donc c'est une ville sur une fjord dans le sud d'Oslo, où Munch avait une maison d'été, ou un atelier d'été, où il a passé pratiquement tous ses étés depuis le début 1890, et où il peignait souvent des tableaux à l'air libre. Donc,
et il les laissait presque sous la neige, il y a beaucoup de photos de lui où les tableaux sont sous la neige. Il les maltraite.
Il les maltraitait, exact. Mais Askastrand, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, cette ville, et il existe toujours, c'est l'atelier de Munch, et on peut, et pratiquement très peu changer cette ville, donc on peut vraiment y aller et traverser les tableaux de Munch en étant à Askastrand.
La question du décor vous intéresse aussi, Franz Kurti. Qu'est-ce que vous en pensez chez Munch ou chez vous-même que... En quoi est-ce une question moderne que...
Du décor, Munch, c'est quelqu'un qui a planté un décor, et quand on regarde La Frise de la vie, c'est flagrant, un décor et des personnages. C'est hallucinant, c'est-à-dire que c'est sur 30 ans. Hein, c'est-à-dire qu'on peut remarquer quand même que les femmes se ressemblent d'un tableau à l'autre, c'est toujours un peu la même femme, c'est toujours un peu le même endroit. Et moi, je suis un peu fasciné aussi, là, dans le tableau que l'on regarde, La danse de la vie. J'aimerais demander d'ailleurs à Angela ce qu'elle en pense sur cette lune. Ce clair de lune qui est tellement hésitant entre évidemment le i, l'éprouvette, et puis en regardant un petit peu avant de venir tout à l'heure, j'ai vu une étrange analogie avec une autre œuvre qu'il a peint quelques mois après, je crois, qui est Golgotha.
L'artiste crucifié.
Et quand on regarde la lune telle qu'elle est peinte ici, c'est vraiment très. L'analogie est. Frappante.
Qu'en pensez-vous, Angèle, un peu ?
Je pense que... Oui, en effet, on peut voir un Christ quand on connaît l'autre, mais cette clair de lune, on a parlé tout à l'heure par rapport au cri, ça devient devenu un signe. Mais c'est clair de lune, c'est aussi une sorte de pictogramme dans l'œuvre de Munch. C'est même pratiquement une signature, parce que c'est vraiment un motif qui insère sans cesse. Et je pense que, bien sûr, après, vu le contexte, chaque fois, on peut le voir différemment, parce que je sais pas, ça s'appelle les regardeurs, cette émission, c'est pas les regardeuses, je sais même pas si ça existe en français, les regardeuses. Mais en tout cas.
On va y réfléchir.
C'est un regard, parce qu'on peut voir aussi, notamment dans ces contextes de la danse de la vie, il y a aussi une forme légèrement phallique, on peut le voir aussi dans ce sens-là.
Beaucoup de commentateurs le regardent comme un phallus avec cette question de l'étrange fécondation de l'un par l'autre, c'est-à-dire de la lune par son reflet ou du reflet par sa lune.
Mais tout ça lié avec l'éprouvette.
Tout ça lié.
Par contre, il y a une chose aussi qui me, pour moi, évidemment, le i, c'est le i, le jeu, quoi. Et je sais pas si, ce que vous en pensez, en gars, c'est
une interprétation.
C'est une interprétation, et tout ça est lié aussi, hein.
On a eu un grand débat sur Piero della Francesca il y a quelques semaines, où l'ancien directeur du musée du Louvre, Michel Laclotte, nous interdisait de surinterpréter. Mais je vous engage à vous laisser aller. Pourquoi pas?
Je pense que, comme le disait Angela, Munch, c'est quelqu'un qui a travaillé le regardeur. Et c'est parfait.
Vous savez ce que dit Duchamp. Et d'ailleurs, ce sont les regardeurs qui font les tableaux.
Mais voilà. Il l'avait dit avant lui.
Qu'est-ce que regardait justement Munch à l'époque? Est-ce que Klimt, qui a fait lui aussi des grandes frises de la vie, est-ce que c'est un regard qu'il a pu avoir sur lui?
Oui, il a pu avoir. Il est allé à Vienne aussi. Il a beaucoup voyagé. Donc à ces moments-là, justement, avec Tulla, Larsen. Et donc il a pu le voir. Oui.
Alors on ne sait pas peut-être suffisamment que, vous le savez évidemment, Gaël Ampeu, vous êtes un savant, mais il a énormément... passé de temps à Paris. Il s'est nourri là des écrivains, il a retrouvé aussi une communauté du Nord qui était là, il y avait Strindberg, mais il a retrouvé aussi des écrivains français, Maeterlinck et d'autres, et il s'est lancé dans un travail de décor aussi dans cette, qui illustrait cette sorte de réalisme psychique avec Max Reinhardt par exemple.
Oui, en effet, il a travaillé à Berlin avec Max Reinhardt, mais c'était après La danse de la vie, c'était en 1907. Donc, à ce moment-là, il a travaillé sur le Revenant, la pièce de Ibsen. Sur le Revenant, il a travaillé avec Reinhard à Berlin.
Alors, on va reparler de Reinhardt, mais peut-être écoutons Arthur Kahn nous raconter comment Munch est arrivé chez ce grand metteur en scène de théâtre, très innovateur, on en reparlera tout à l'heure. C'est un texte de 1926.
Ainsi donc, Edvard Munch était tous les jours au Deutsche Theater. Il vivait parmi nous, travaillait le jour et buvait la nuit, et peignait en alternance les tableaux des revenants et ceux de son cycle. Parfois aussi, il restait longtemps, longtemps assis, complètement silencieux et immobile dans mon bureau, dans le sérieux le plus total, ne parlait presque à personne, semblait ne pas voir et ne pas entendre ce qui advenait autour de lui, paraissait profondément plongé en lui-même et rien ne bougeait sur son visage. Que se passait-il derrière ces traits implacables ? Qu'est-ce qui travaillait derrière cet étrange front d'airain? Et il suffisait ensuite du moindre motif pour qu'il s'éveillât, reprît sa pleine lucidité et se mit à rire, un rire d'enfant, simple et enjoué. Son être était toujours d'une égale amabilité, mais avec cependant quelque chose de boutonné, une raideur nordique, une face fermée, opaque. Il restait l'étranger, demeurait pour nous le mystère en personne. Il avait quelque chose de l'enfant et du sauvage, une primitivité presque animale, une innocence parsifalienne. Et puis de nouveau cette prodigieuse complexité, ce savoir relatif aux secrets les plus enfouis. On n'avait qu'à regarder ses tableaux. Où y avait-il quelqu'un qui, aussi pleinement homme, sut pareillement comprendre la femme et souffrir ses souffrances? Il était parfois d'un entêtement ridicule, ne regardait et n'écoutait ni à gauche ni à droite, ne se laissait ni toucher ni détourner par l'éloge ou la critique. Mais derrière cette obstination se cachait une volonté d'acier titanesque, consciente de sa voix comme un somnambule. Et une volonté de liberté qui paraissait faire exploser toutes les bornes de la société. Une volonté qui n'avait pu naître et grandir qu'au sein d'une solitude véritable et ultime. Arthur Kahn, octobre 1926.
Tu ne veux pas me jouer quelque chose?
Qu'est-ce que tu veux que je te joue?
Ce que tu voudras.
Tu n'aimes pas mon répertoire.
Mais toi, tu n'aimes pas le mien.
Tu désires que les portes restent ouvertes?
Comme tu voudras.
Alors laissons-les. Pourquoi ne fumes-tu pas?
Je commence à ne plus très bien supporter le tabac fort.
Eh bien, fume-en du plus doux, tu prétends que c'est ton dernier plaisir.
Un plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ne me le demande pas. Je ne le sais pas plus que toi. Tu ne veux pas prendre ton whisky?
Non. Non, j'attendrai encore un peu. Qu'est-ce que nous avons pour dîner ce soir?
Comment veux-tu que je le sache, mon Christelle?
N'est-ce pas bientôt la saison du maquereau? Nous voici en automne.
Oui, c'est l'automne.
À l'intérieur comme à l'extérieur. Mais en dehors du fait que l'automne amène le froid à l'intérieur comme à l'extérieur, un maquereau grillé avec un rond de citron et un verre de Bourgogne blanc ne serait pas chose méprisable.
Tu deviens éloquent.
Avons-nous encore du Bourgogne à la cave?
Depuis 5 ans, nous n'avons pas eu de cave, que je sache.
Mais tu n'es jamais au courant.
Alors on vient d'entendre un extrait de la danse de la mort de Strindberg qui a été réalisé en 1900... Enfin, cet extrait est tard, c'est 1942, n'est-ce pas? C'est la mise en scène de Jean Villard. Mais l'écriture du texte, c'est 1902, c'est-à-dire c'est quasiment contemporain de la danse de la vie que nous regardons, dont c'est l'exact contraire, mais dans lequel on retrouve le côté incroyablement intimiste qu'il y avait dans ces exercices qu'a fait pour le théâtre Munch, en particulier avec Max Reinhardt. C'était une idée d'un théâtre très très particulier, puisqu'il s'agissait de ramener les spectateurs tellement près de la scène, tellement à l'intérieur de ce qui se déroulait, qu'on avait l'impression qu'on observait une intimité soudain révélée de façon incroyablement indiscrète. Est-ce que ça a eu de l'importance dans la vie de Munch? Est-ce que c'était juste par rapport à sa démarche, cette demande de décor?
Oui, c'était juste parce qu'il voyait vraiment là comment on peut interpeller le spectateur, comment on peut interpeller les regardeurs. Parce que là, il voyait vraiment un dispositif scénique qui était tout à fait nouveau. Donc, c'était le Kammerspiel à Berlin. Et donc, c'était le premier théâtre intime.
Kammerspiel, comment vous traduiriez ça?
Théâtre de chambre. Et c'est une idée qui remonte à Strindberg. Donc, c'est lui qui avait vraiment pour Madame Julie un théâtre intime. Lui parlait d'un théâtre intime.
Qu'il n'a pas pu réaliser. Il l'a réalisé beaucoup plus tard. Et c'est Max Reinhardt qui était le premier à le réaliser.
Mais il avait cette idée. Il avait, au moment, il était en 92... Donc 1892, quand il était à Berlin avec Munch. Donc Munch a pu discuter avec Strindberg à ce moment-là. Donc, et il voyait donc avec Reinhardt à Berlin, donc il voyait vraiment la réalisation. Et il était avec Reinhardt pendant 1 an, donc il était invité à faire les décors. Il a travaillé avec des acteurs à ce moment-là. Il a fait ce qu'on appelle des esquisses d'atmosphère. Donc il était vraiment très présent. Et il a pu voir l'efficacité de ce dispositif, c'est-à-dire de rapprocher vraiment l'acteur du public. Et il l'a transposé ensuite, notamment dans un cycle qui s'appelle La Chambre verte, dont on a montré une série de tableaux dans l'exposition au Centre Pompidou, où on voit vraiment une sorte d'espace pictural qui s'approche d'une boîte. Donc on a l'impression qu'on regarde dans une boîte et on est très proche de toute la scène. On voit comment il coupe, le bord inférieur du tableau coupe par exemple une table, et on a l'impression d'être à la table avec les acteurs. Donc il y a cette façon vraiment chaque fois de faire entrer le
sans doute aussi l'influence des cadrages de Degas que regardait beaucoup Munch à cette période-là, et probablement donc il y avait eu cette amitié entre Strindberg et Munch, et puis ensuite cette complicité entre Max Reinhardt et Munch. Et j'ai l'impression que Max Reinhardt s'est servi très profondément du climat psychique des tableaux de Munch pour travailler. Est-ce que c'est un domaine, Franck Scurti, qui vous intéresse, que vous avez déjà abordé, la question du décor d'un point de vue général et du décor de théâtre ou de cinéma d'un point de vue particulier?
Non, ça m'intéresse, mais je n'ai pas...
Qu'est-ce que ça veut dire faire un décor pour un artiste comme vous?
Ben justement, c'est une bonne question. Je crois que c'est faire un décor, pour moi, c'est... Un décor, c'est un supplément, je dirais. Je le vois comme ça.
Un supplément, je comprends pas ce que vous voulez dire.
Un supplément, un peu comme un cadre, vous voyez, je sais pas.
Vous voulez dire que ce n'est pas l'essentiel?
Ce n'est pas l'essentiel.
L'essentiel est ailleurs.
Je le pense.
C'est une émanation d'un cœur plus fort.
Tout à fait. Donc, ça m'intéresse, mais je n'y ai pas été confronté.
Vous avez toujours refusé de faire des œuvres publiques, vous l'avez fait une fois. Je sais que, en tout cas, il y a quelques années, on vous avait beaucoup proposé, vous avez préféré.
Oui, non, c'est pas du tout. J'ai accepté celle de Fourier parce qu'elle me concernait.
Un hommage à Fourier qui se trouve juste à côté de la place Clichy, au bout du.
Mais non, parce que je trouve que souvent la commande publique c'est un trou noir dans la carrière d'un artiste, sauf pour ceux qui dont c'est la spécialité. Souvent c'est
beaucoup d'efforts de débat, de compromis parfois.
Oui, et puis on est dans des systèmes qui, enfin en ce qui me concerne, qui me conviennent pas, aujourd'hui ma pratique, mes activités sont plus proche du bricolage que de la production. C'est des décisions que j'ai prises il y a quelques années, des décisions politiques sur la façon de créer aujourd'hui aussi, vous voyez. Donc tout de suite, cette question de la commande publique, du décor, voilà, ça me concerne... c'est intéressant pour un artiste, j'y serai sans doute confronté un jour, je sais pas, pourquoi pas. Mais qui ne sont pas naturels pour moi en ce moment.
Munch l'a fait aussi une seule
Angela
fois.
Angela Lampe, oui, ouais. Dites.
Munch l'a fait une seule fois. Hein.
Ouais. Il ne l'a pas recommencé non
il
plus.
Il n'a pas recommencé, il était vraiment, je pense, dégoûté pour plusieurs raisons.
C'est
donc
terrible. Encore une fois, il y a des artistes dont c'est la spécialité. Enfin,
alors, je voudrais revenir sur un autre aspect qui me paraît important, c'est comment se fait l'invention, l'apparition d'un tableau. Alors, on a parlé de la danse de la vie assez largement pour voir comment c'était lié à un état, à une histoire personnelle qu'il raconte. Vous avez dit, Angela Lampe, qu'il avait refait une autre version. Et en le disant, finalement, on se rend compte que cette version est peinte avec autant de liberté. Et donc, ce que l'on pensait être l'expression d'un temps de crise et d'une peinture plus faible, comme je l'énonçais au début, était simplement une volonté de parvenir peut-être à une écriture plus sténographique et encore plus libre.
Dans la deuxième version.
Dans la deuxième version.
Oui, oui, c'est parce qu'on peut aussi... Pour revenir à cette question, pourquoi il reprend les mêmes motifs, on peut aussi parler d'une volonté d'actualiser un motif, une sorte d'updating, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire, il voulait la mettre à l'air du temps avec aussi...
Ou de ses préoccupations qui ont évolué.
ses préoccupations qui ont évolué. Il y a aussi, il a aussi, il l'a vu entre-temps. Par exemple, il a vu les expressionnistes dans la grande exposition du Sonderbund à Cologne en 1912. Et on sait qu'il était fortement impressionné par les jeunes artistes qui avaient vraiment beaucoup plus de liberté. Il disait, voilà, ici, à Cologne, ils se rassemblaient ce qui est le plus sauvage vraiment actuellement. Donc il se sentait un peu démodé, un peu pâle par rapport à cette nouvelle expressivité.
Il a pourtant, dit-on, inspiré assez largement les fauves qui ont pu le voir à Paris tôt.
Il a pu surtout inspirer des membres du Bruque. Donc
les expressionnistes allemands.
Mais moi, je dis plutôt le contraire, l'inverse. C'est-à-dire que Munch a été inspiré notamment de Matisse, enfin des fauves.
Alors, j'ai lu le. Il y a une bagarre d'historiens. Certains historiens disent que Matisse a été inspiré par Munch. Vous prétendez le contraire, je suis sûr que Angela Lampe, vous avez forcément raison.
Non, après, ça dépend. Est-ce qu'on parle du motif, de la couleur, de la palette? Enfin, il y a différents types d'inspiration.
Alors, je voudrais poser une question à Franck Curti sur l'hallucination. Parce que quand on regarde, quand on lit les textes, Munch a beaucoup écrit sur son propre travail, et sur le cri en particulier. Et quand il dit ce qui se passe dans le cri, par exemple, il dit « Je me promenais sur un sentier avec deux amis, le soleil se couchait », donc il raconte ce qui se passe. Tout d'un coup, le ciel devient rouge sang, je m'arrête, fatigué, je m'appuie sur une clôture, il y avait du sang et des langues de feu, on revient au côté christique dont vous parliez tout à l'heure, au-dessus du fjord bleu-noir de la ville, mes amis continuèrent et j'y restais tremblant d'anxiété, je sentais un cri infini qui se passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. Vous, je suppose que quand vous trouvez un élément que vous incluez dans vos travaux, c'est pas un cri déchirant qui parcourt l'univers que vous croisez, mais néanmoins, est-ce qu'il y a un arrêt? Est-ce que vous êtes interpellé? Comment se fait le moment où vous ne pouvez pas continuer sans ramasser la chose?
Mais tout simplement parce que je pense que les matières, pour moi, elles sont socialisées un petit peu. Elles contiennent des charges. Et c'est souvent ce qui me parle, en fait. C'est, je sais pas, dans l'exemple du cri, il y a une planche. C'est cette planche que j'avais trouvée parce que les nœuds du bois étaient particulièrement veinés.
Donc elle vous raconte quelque chose.
Tout à fait. Ou alors une grille de chantier, etc. Enfin, à chaque fois, parce que la grille me fait penser à une composition, à un dessin dans l'espace, et puis sa matière est intéressante. Enfin, mais avant tout, il y a toujours une charge, je dirais, sociale qui m'intéresse aussi. Quelque chose qui a trait à... Il faut que l'objet comporte en lui-même ce moment de crise un petit peu.
Là, c'est l'objet. Je pense qu'il y a la situation dans laquelle Munch est peut-être, ou la situation du paysage, des gens qui l'affolent, parce qu'il est très agoraphobe, en fait, hein, il a très peur des autres, le mettent en crise, et vous, c'est plutôt l'objet qui témoigne d'une crise.
Oui, oui, oui. Parce que pour moi, je pense qu'aujourd'hui, la société a changé. Les objets sont aujourd'hui aussi proches que... Enfin, l'équivalent presque, malheureusement, des gens, enfin, quelque part.
Par leur pauvreté, par leur détresse, par leur abandon.
Tout à fait, c'est une image, quoi. Enfin,
leur déchéance, en fait.
Ça peut être une image,
ouais. Ça peut être une image, ouais.
Après, juste sur le côté... Vous parliez de la citation de Munch à propos du cri. Encore une fois, c'est une question pour Angela.
Mais elle nous répondra, Angela. J'ai l'impression. Elle vous regarde l'air sévère.
J'ai l'impression que sa biographie est construite à Munch. J'ai pas l'impression que Munch était ce cœur malade, ce pauvre.
Vous pensez que c'est une légende?
Je sais pas. C'est une intuition. Je pense que c'est une construction. Je pense que c'est quelqu'un, comme on le disait au début, qui a vécu, enfin, qui est mort octogénaire, je crois, hein, jusqu'à 80 ans.
Il est né en 1863, enfin, il meurt en 1944.
Vous n'êtes pas bon en maths, parce que ça fait plutôt 80 ans.
Oui, voilà, donc c'est 80 ans, hein, octogénaire. Ouais, je ne sais pas, en parcourant un petit peu ses écrits, et je me disais, je trouvais que c'était un peu construit tout ça. Mais je pense pas qu'il était aussi malheureux que ça et que toute la misère du monde lui était tombée sur les pieds, comme on dit.
Il y a une chose qui peut nous révéler, qui peut nous donner une réponse, Angela Lampeu, vous allez me le confirmer, c'est l'insistance sur sa propre image. Avec deux médiums, la peinture, bien entendu, énormément d'autoportraits. Et dès qu'il utilise la photographie très très tôt, hein, je crois dès 1900, allez, dites-moi un chiffre.
8.
C'est bien tenté, ça doit être ça. Et bien donc, dès 1908, il utilise la photographie. Et se représente lui-même tout de suite. Je ne sais pas comment ça s'appelle quand on fait une photographie de soi avec un appareil photo.
Selfie,
voilà.
Oui, c'est l'inventeur de selfie.
C'est l'inventeur de selfie, voilà.
Mais juste pour dire sur les autoportraits, ils sont très joueurs quand même, hein, ces autoportraits, hein, souvent. Hein.
Bah, à la fin, ils sont terribles. Hein,
oui.
Parce qu'il y a même un autoportrait quasiment une heure avant de mourir.
Très tardif, oui.
Mais moi, je trouve
c'est dire d'être plus tardif. Hein.
Mais pas, oui, non, mais je veux dire, c'est une aquarelle, hein, c'est pas une photo. Hein.
Ouais.
Les photos, il s'arrêtait. Hein. Mais il a fait des aquarelles.
Les autoportraits à 2h30 du matin.
Oui,
mais
ça, c'est une aquarelle, tout à fait. Hein.
Donc, vous pensez, vous, quand même, que c'est ce n'est pas une construction, c'est vraiment psychobiographique?
Non, je pense que c'est pas une. Oui et non, d'une certaine façon. Il y a une certaine façon qu'il s'est construit, comme chaque artiste, je pense. Qui s'écrit ses propres mythes, hein, et son propre image. Mais il y a aussi, je pense que c'est aussi lié à la réception de l'œuvre de Munch, parce qu'on a beaucoup, beaucoup insisté dans la réception, dans les textes, que le côté psychique, le côté biographique, qu'on a toujours ramené justement à ses problèmes privés, à son angoisse, à sa mélancolie. Or, avec l'exposition qu'on a conçue au Centre Pompidou, on a essayé justement de briser un peu de cette image, de montrer que Munch était un peu plus ouvert, plus moderne, qui voyageait, qui lisait beaucoup, qu'il était abonné aux revues.
C'est
pour cette raison, je dis oui, non. Donc, en effet, je pense qu'il y a, vraiment...
Mais ce qui est intéressant, c'est que je pense que Franck part dans son regard de l'art contemporain. Dans l'art contemporain, il y a au fond deux choses. Il y a l'habitude de créer des personnages. On devient une sculpture vivante à la Gilbert and George. Donc la biographie n'est pas vraie. Et dans la fin de l'expressionnisme symbolique, dans le naturalisme psychique, comme me le soufflait Sandra Adam, eh bien, dans ce sorte de naturalisme psychique, il y a, je pense, une vraie volonté d'aller vers l'expression de soi. Et je voudrais que vous me disiez, vous qui vivez dans l'art contemporain, Franck Scurti, pourquoi les artistes d'aujourd'hui sont si méfiants sur l'expression de soi? Pourquoi est-ce que l'expression psychique est légèrement repoussée au-delà des frontières de l'art de la création actuelle? Vous-même, dans votre travail, c'est quelque chose que vous n'acceptez pas.
C'est vrai.
Je vous sens hésitant.
Non, c'est vrai. Non, c'est une vraie question. Je pense que c'est tout simplement.
On en a fait le tour. Après Francis Bacon, c'était terminé.
Mais le problème, il est un peu là, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fait le tour de. Si vous voulez, comment faire le tour de l'expression psychique de l'individu?
Oui, il y en a autant que d'individus.
Alors, je pense pas que ça vienne de ça. Je pense que nous sommes. Pour la plupart, issus d'une tradition, de mouvements, avons été influencés par des mouvements, etc.
Un artiste de votre génération, vous avez 45 ans à peu près, vous êtes influencé plutôt par l'art conceptuel, un art plus froid,
J'ai été influencé, oui, par l'art conceptuel, le peuple, Fluxus, etc. C'est vrai que c'est assez récent, finalement, où c'est vrai que en ce moment j'ai plus tendance à regarder Van Gogh ou Munch que l'art conceptuel ou minimal, vous voyez.
Mais ça vous rend pas plus expressif, hein?
Non, pas du tout. Mais par contre, ça m'apprend beaucoup. Par exemple, le fait, cette fameuse frise de la vie et cette suite d'œuvres qui forment au bout d'un moment un récit qu'on ne peut vraiment cerner, hein, et qui pour moi influence mon travail énormément en ce moment. Hein, non pas Munch, mais je l'ai vu chez Munch. C'est ce que je suis en train de, finalement d'essayer de. C'est un de mes projets. Je l'ai pas trouvé dans le pop art ou ce qui est sans doute. Hein,
alors savez-vous, Franck Furti, Angela Lampeu va sans doute nous éclairer là-dessus que Andy Warhol s'est beaucoup intéressé à Munch et a même fait des sérigraphies à partir des lithographies de Munch.
Donc vous voyez que c'est
des gravures sur bois de Munch d'ailleurs, je devrais dire.
Oui, des photographies d'ailleurs aussi l'écrit. Hein, donc il a très bien compris que justement ces motifs étaient comme des signes complètement libres, hein, c'est-à-dire flottants, qu'on pouvait vraiment l'extraire de l'œuvre de Munch et l'inclure dans son propre œuvre. Donc il a compris vraiment cette modernité, parce que c'est quand même.
C'était pas une fraternité de deux hommes qui se sont fait tirer dessus par une femme l'un et l'autre.
Oui, c'est on y fait tirer dessus, hein, tout ouais, à fait. Parfait, mais oui, je pense qu'il y a aussi un côté mélancolique. Je pense que ce côté-là qu'on voit chez Warhol, qu'on voit aussi chez Edvard Munch. Donc, je pense qu'il y a une similarité.
C'est aussi quand je parlais aussi tout à l'heure de valeur de l'image. Ce questionnement sur la valeur de l'image a amené chez Munch à travailler énormément avec. La lithographie, la gravure, les moyens de reproduction, il a découvert ça.
Et c'est vrai qu'il a découvert ça en Allemagne, très inspiré par Dürer, par exemple, et d'autres qui ont travaillé aussi sur la danse macabre, qui est aussi la danse de la vie et de la mort, entre Munch et Strindberg.
Il l'a travaillé à tel point que, pour filer un petit peu aussi sur l'idée de la frise de la vie et sur les tableaux qui manquent, etc., pour former des unités, il a commencé à intervenir directement sur ces reproductions. C'est-à-dire aller retoucher, aller, vous voyez. Et donc, ça ne m'étonne pas non plus que ça intéressait à Warhol, tout ça.
Edvard Munch est allé très loin. Merci beaucoup à mes invités de m'avoir accompagné pour regarder avec moi cette œuvre extraordinaire, La danse de la vie.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs, une émission en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons donc regardé une œuvre de 1899 intitulée La danse de la vie et réalisée par le peintre norvégien Edvard Munch. C'est comme ça qu'on prononce Angela, n'est-ce pas ?
C'est parfait.
Cette œuvre est conservée à la Galerie Nationale d'Oslo. Durant l'émission, vous avez pu entendre des musiques de Francesco Tristano, extraordinaire artiste, je pense très jeune, il doit avoir 32 ans. Et vous avez entendu également des extraits de la bande originale du film de Wim Wenders, Pina, la grande chorégraphe donc, qui était opportune pour la danse de la vie. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'édition, Claire Poinsignon, je m'en étrangle. Lecture des textes. Estelle Clément Bellem, à la technique Philippe Palares, réalisation Annabelle Brouard, Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.